Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, éternel, tous ceux qui t'abandonneront seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive. Guéris-moi, éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, il me dit, où est la parole éternelle, qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur, je n'ai pas non plus désiré jour du matin à ta fille. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi mon refuge au jour du malheur. On a un sacré programme quand on lit des tels textes. Hein. Donc, le trône éternel de Dieu est évident. Tous les jours, quand on se lève, quand on va dormir, quand on lit la Bible, c'est à Dieu sur son trône de gloire qu'on s'adresse. Hein. Seigneur, fais-moi voir un jour ta gloire. Conduis-moi dans ta gloire. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie. Purifie-moi de tout péché, Seigneur. Seigneur, conduis-moi jusqu'à l'endroit le plus précieux de ma vie, qui est ton trône. Au nom de Jésus, amen. Alors le trône est évidemment important. Important. Donc, où est-il ce trône actuellement? Il est au ciel, et il descendra à Jérusalem céleste, il descendra sur terre. Et les anges qui sont autour du trône, qu'on voit dans Apocalypse au chapitre 4 et 5, qui glorifient Dieu sur le trône, et qui glorifient l'agneau immolé, Jésus, ils vont tous apparaître sur terre. Et le trône de David, en fait, quand Dieu, par le prophète Nathan, égare, promet un trône à perpétuité, c'est ce trône qui apparaîtra à Sion, une colline de Jérusalem, la première colline où les Hébreux ont eu autorité, ont pris pied, parce qu'ils n'ont pas possédé directement Jérusalem. Et c'est évidemment... parfois dans les psaumes, quand on voit ça, je pense qu'on peut aller voir un psaume ou deux, hein, ça serait bien. Psaume 50, je pense. Psaume 50, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. On est compte, le prochain psaume que va commenter Michael. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Donc les cieux seront sur terre. Les anges, le trône de gloire, le temple céleste, tout sera sur terre, face aux élus. Il n'y aura pas d'autres personnes, puisque ceux qui auront refusé ne pourront pas avoir accès à cette gloire divine. Alors, évidemment, toute la pédagogie de Dieu, c'est d'envoyer des prophètes, donner des révélations. Écoute mon peuple, je parlerai, Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Voilà, et il ne demande pas des taureaux, des sacrifices, regardez les versets qui suivent, hein. C'est, qu'est-ce qu'il veut? Ah, au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut, invoque-moi. Alors, voilà, je ne fais pas le psaume avant que Michael le fasse, mais Sion est l'endroit de beauté de l'Éternel. Deutéronome 16, verset 6. C'est pour ça que quand vous priez, tournez-vous vers Jérusalem, je vous en supplie. Toutes les églises du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle étaient construites vers le sud-est. Celle de Gomery y est encore, alors qu'elle a été construite en 1860-70. Et c'est à partir du siècle de Renaissance où l'homme a pris une autorité sur, dans certains lieux chrétiens, qu'on a tourné l'église comme on voulait. Hein. Mais pratiquement, jusqu'au Moyen-Âge, on tournait toujours vers Sion. Parce qu'on savait que l'Éternel, le Christ revenait là. Alors, Deutéronome 16, verset 16, « C'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. » Le lieu, évidemment, c'est Sion, c'est Jérusalem, et plus tard c'est l'endroit du Temple, hein, pour les sacrifices. Mais n'oubliez pas, il n'y a qu'un seul endroit que Dieu a choisi pour sa gloire. Un seul endroit, c'est là. Il est jalousé par Satan. Ézéchiel 28. C'est pour ça que ça commence à frétiller en Syrie et au Liban. Ça commence à frétiller. 100 000 roquettes et missiles sont prêtes, hein, installées par l'Iran. Alors, ça frétille, hein, ça commence. Quand je suis revenu en Blablacar de Limoges, j'avais dans ma voiture quelqu'un qui a travaillé dans les services secrets, une firme privée d'un service secret aux États-Unis. C'est incroyable. Et qui me racontait qu'il voyait sur les écrans, lui, il voyait la base aérienne d'Israël dans le désert du Negev, elle est souterraine. Tout d'un coup, les trappes s'ouvrent, les avions chassent, sortent, font la caisse, ça se referme. Ça ne dure qu'une seconde ou deux. À la vitesse où ils vont, trois minutes après, ils sont sur les frontières du Liban et de la Syrie, hein. Même pas. Hein. Et ils vous pulvérisent, depuis des années, ils vous pulvérisent les installations des chiites. Depuis des années. Et on n'en parle jamais. Autrement, ils seraient déjà anéantis. Hein. Ok. Et c'est là qu'aussi, ils ont 30 bombes atomiques, si pas plus. Alors, si l'Iran commence à faire le rigolo, actuellement, et parce qu'il y a des gros problèmes avec un bateau pris en otage par les Iraniens dans le détroit d'Ormuz, et un pris par la communauté européenne, internationale, tout près de Gibraltar, un bateau de l'Iran. Ça commence à chauffer. Ça va mal. Et pratiquement, ils se tortillent là, dans le sud du Liban. Ils se tortillent. Déjà, ils sont déjà en train d'activer plus la soupe. Hein. Et il faut peu de choses pour que M. Trump envoie un pruneau sur l'Iran. Hein. Mais que les Israéliens, ils sont prêts aussi. Tout ça, c'est de l'histoire, mais toujours le problème, Ézéchiel 28, le problème, c'est la jalousie de Satan à propos de Jérusalem. C'est que là que ça se passera, tous les enjeux du monde. C'est le baromètre du monde. Alors, au chapitre 28, ça, nous sommes en 615.
28 de quoi ?
Ézéchiel. Nous sommes en 615 avant fin du chapitre 27 aussi. Hein. 615, 613 avant Jésus-Christ. Et là, il y a un empire extrêmement grand au Liban, hein, qui domine sur la Méditerranée, même qui passe le détroit de Gibraltar, qui va vers les côtes de France et d'Afrique. Et c'est l'empire phénicien. Et le roi à cette époque-là s'appelle Ekbal II. C'est un fou furieux, comme il y en a beaucoup sur la Terre, qui croit que le monde lui appartient. Ben, pour le moment, c'est parti pour la Chine. Hein. Chacun son tour. Hein. C'était l'Europe, c'était les Américains, maintenant c'est la Chine. Hein. Tout le monde a la même fringale. Hein. Hein. Venu de Satan. Et tout le monde s'est cassé la figure, hein, parce que Dieu n'a pas laissé faire. Dieu arrête ça un jour. Alors, à la fin du chapitre 27, déjà, le prophète Ézéchiel est envoyé vers des non-juifs. C'est un peu comme Jonas. Ben, il n'aime pas ça, mais il y va. Hein, lui, il ne refuse pas. Je commence au chapitre 27, verset 32. « Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi, ils se lamenteront sur toi, qui était comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer. Effectivement, l'UNESCO prend des bateaux, retire les pierres de Tyr et de Sidon qui sont à 30, 40 mètres, 50 mètres sous l'eau. Eh oui, c'était prophétisé là. Et c'est le cas. Des statues de tout, hein. C'était des grosses villes, c'était une puissance énorme, hein. Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples. Hein. Pensez à New York, à Rotterdam et tout ça, c'est le même bidule, hein, toujours, le commerce, le commerce. Par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. C'était pas encore arrivé qu'Ézéchiel lui disait. Ben, il prenait Ézéchiel pour un malade, évidemment. C'est arrivé. Tous les habitants des îles, sont dans, donc des autres nations, sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont assis d'épouvante, leurs visages bouleversés. Fini le business, hein? Crise économique, grave. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu réduis ton néant, tu ne seras plus à jamais. Et vous avez ici, au chapitre 28, deux prophéties. Une qui continue sur le roi. Hein? Parce qu'il s'est considéré comme Dieu. Ton cœur s'est élevé, verset 2. Je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour inventer de Dieu. Voilà. Et il est plein d'arrogance. Comme Hitler, Staline, etc. Tous ceux qu'on peut connaître. Hein. Alexandre le Grand, de l'histoire. Mais il y a une deuxième prophétie dans Chapitre 28, c'est sur celui qui est dans Ekbal 2. Ça, c'est intéressant de voir. Et c'est celui-là qui vise Jérusalem, toujours, et encore, et très bientôt. 28, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, et le prophète cite toutes les pierres précieuses qui sont sur la poitrine du grand prêtre à Jérusalem et sur les épaules, qui représentent l'élection de Dieu. Donc c'était un archange élu de Dieu, bien-aimé de Dieu. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Rappelez-vous, sur l'arche d'alliance, il y a deux anges en ébène ou en acacia couverts d'or. Hein, et pratiquement, ils ont les ailes déployées. Et bien cette image-là, je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne, tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Oh, les amis, le temple est déjà détruit là. Donc, il n'y a plus d'argent alliance là, etc. Détruit? Non, pas encore détruit. Il va être détruit quelques années après. À peu près 14-15 ans après. Mais ce qu'il y a, ça ici, c'est une disposition éternelle. C'est quelque chose avant que le temple existe. L'archange aux anges déployés sur le lieu de Jérusalem, c'est éternel. C'est depuis le décret de Dieu, dès le départ de la création du monde. Cet endroit est un endroit sacré. C'est là que Jésus a été condamné par le grand prêtre et les prêtres. Et c'est là que les sacrifices ont eu lieu. C'est là qu'on a la mosquée maintenant, pas par hasard. Le Dieu de la jalousie veut prendre la place. Et pratiquement, toutes les bagarres qui tournent alentour, qui tournent avec l'Iran, etc., c'est pour là. Et vous savez très bien que le grand dirigeant de l'Égypte qui avait été élu, qui est en prison actuellement, voulait aller à Jérusalem. Erdogan s'était associé avec lui et celui de Syrie, bye bye. Ils avaient fait un plan, ils avaient dressé des cartes de tout un islam vert, depuis la Malaisie, l'Indonésie, jusqu'aux portes de l'Europe, et Jérusalem était le centre. Moi j'ai vu ça sur Arte. Et il parlait, cet homme-là qui est en prison. Pourquoi les militaires égyptiens l'ont arrêté, l'ont mis en prison? Et on a arrêté le mouvement islamiste contre Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords entre l'Égypte et Israël, et parce que Dieu intervient. Il a toujours fait de l'Égypte un allié de Israël. Parfois un ennemi, mais parfois un allié. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a toujours un accord de paix signé depuis El Sadat, oui, avec Israël, qui énerve les autres pays musulmans d'ailleurs. Et pratiquement, celui-là qui est en prison voulait absolument établir la royauté islamique et le lieu de Dieu. Et le prophète Muhammad de l'islam a voulu que ce soit le lieu de l'islam. C'est les juifs qui ont refusé, et les chrétiens. Alors là, il n'a pas pris du bon côté. Hein. C'est comme ça qu'il aura déclaré la guerre. Hein. Alors, Satan veut, était éternellement était un archange de grande qualité, et puis il a rompu avec Dieu, il est entré en orgueil, et en voulant s'approprier l'endroit. Regardez bien, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par grandeur de ton commerce, c'est impossible, hein, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Donc, cet homme-là a été précipité dans la montagne de Dieu. Cet homme-là, cet archange, cet ange qui est devenu Satan. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Il est à terre. Qu'est-ce qui traîne le plus à terre qu'un serpent? L'image du serpent, c'est ça. C'est la déchéance de Satan. Alors, les amis, le trône que nous avons dans Jérémie est très important pour Dieu, mais aussi pour Satan. Prenons Ésaïe 25. Finalement, qu'est-ce qui va se passer là? C'est pas Satan qui l'aura. Ézéchiel 25, verset 6, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Donc, à Jérusalem, au Mont Sion, voilà ce qui nous attend pour tous les élus, hein, l'avènement de la Jérusalem céleste, des réjouissances éternelles. Sans quitte. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, fit disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, on dira, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Donc Satan n'a plus d'autorité. Rappelez-vous maintenant que dans Matthieu 5, hein, je fais vite, peu de temps, Matthieu 5, rappelez-vous ce que Satan a essayé avec Jésus. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 8, le diable, Matthieu 5, verset 8, le diable transporta, donc, c'est le même archange qui était le préposé solennel qui devait garder l'endroit pour l'honneur de Christ, c'est le même qui veut soudoyer Christ pour qu'il se souille dans l'orgueil et l'iniquité. Matthieu 5, 8.
4, 8.
Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vous savez ce que ça veut dire, hein, les gloires des royaumes du monde, hein? C'est le business, c'est la politique, c'est les armées, c'est tout. Hein? Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, tu veux être le plus grand homme politique du monde. Tu veux avoir le succès, avoir tout le monde sous tes pieds, je te le donne. C'est ça qui est toujours dans la tête de tous les grands dirigeants. Et qui fait qu'ils deviennent fous. Parce que c'est Satan qui les conduit. À un moment donné, ils ne savent plus se contrôler. C'est ça qui est arrivé avec Balthe. C'est ça qui est arrivé à Titus. Hein. Et quand Adrien a envoyé, l'empereur Adrien a envoyé 8 légions en Israël en 135, à la révolte de Bar Kochba, eh bien, c'était encore un carnage. Il y a 1,5 million de Juifs qui ont péri. Et pourquoi? C'était aussi Jérusalem qui le dérangeait. Ça dérange toujours Jérusalem. C'est une pierre pesante pour toutes les nations, dit Ésaïe. Alors, Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul.
C'est pourquoi.
Et juste avant la tentation, c'était faire au verset 5 et 7 à 7, le kamikaze se jeter du haut du temple, en tout cas de quand on y est, on voit la hauteur que ça peut donner, et sans parachute, sans parapente, sans rien du tout, et tu n'auras rien du tout, hein. Rien du tout. Et Jésus lui répond au verset 7, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Si donc Jésus a été tenté par Satan à cet endroit, les amis, qui ne le serait pas? Mais naturellement, Jésus n'a pas marché dans la combine. Mais qui ne le serait pas de vouloir prendre un pouvoir énorme? Et c'est ça le futur Antichrist. Le futur Antichrist, qui n'est pas loin à mon avis, vise cette ville. Vous savez que M. Erdogan n'a de cesse que d'arriver là pour établir la bannière de l'islam. Et l'Iran, l'Arabie, la Russie et la Turquie ont un accord signé depuis le mi-novembre entre eux. Ils ne s'en vantent jamais. Et j'ai un site, je peux vous donner les références. Les 10 royaumes, les 10 nations sur le monde qu'il y a dans l'Apocalypse sont déjà signées. Elles sont déjà signées. Elles sont déjà existantes. Vous mettrez ça sur un bout de papier si vous voulez. Alors, on avance. Alors, ceux qui se détournent de cet endroit, il y en a eu, vous vous rappelez que quand Jésus reçoit la visite des pharisiens et des sadducéens, il les voit arriver avec une femme qui avait commis l'adultère, mais qui ne l'a pas fait sur la terre, il y en a beaucoup. Et pratiquement, eux-mêmes, eh bien, ils demandent à Jésus, selon la loi de Moïse, il faudrait la faire lapider. Qu'en penses-tu? Alors Jésus écrit à terre, etc., écrit à terre, et puis il les regarde ou il ne les regarde même pas, il dit que celui qui n'a jamais péché, jette une première pierre. Et moi je pense qu'il a écrit leur nom. Et pourquoi? Parce qu'ils ont quand même une certaine connaissance de l'Ancien Testament. Pas le sens de l'Ancien Testament, ils ne l'ont pas, mais ils ont une certaine connaissance. Regardez bien au verset 13, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Je pense le fait de ne rien dire et d'écrire, il y en a tout de même bien un dans la bande qui a compris ce que ça voulait dire et qui a entraîné les autres à partir. Donc l'endroit de Jérusalem n'est pas un lieu de mensonge. Ils auraient voulu encore ce jour-là, s'il avait fait lapider la femme, que eux les menteurs éliminent cette femme par son autorité, qu'il n'ait aucune miséricorde et qu'il ne lui laisse aucune chance. Avant de mourir sur la croix, cette femme était déjà condamnée. Or, le Messie est venu pour sauver cette femme. Il est le Messie des hommes perdus, le sauveur des hommes perdus. En faisant ça, en demandant à Jésus pour lapider cette femme, il l'amenait à renoncer au caractère rédempteur de sa venue sur terre. Ils vont jusqu'au bout, et c'est Satan par derrière ça. Ils vont jusqu'au bout. Et je vous dis une chose, quand vous, chrétiens, vous n'osez pas, vous ne voulez pas parler du Seigneur aux autres, évangéliser, vous renoncez au caractère rédempteur du Messie Jésus qui est venu sur terre. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, dans votre vie, il est normal que vous en parliez aux autres. Vous essayez qu'il y ait des âmes perdues, qui soient sauvées. Sinon, si vous n'êtes pas dans cette mouvance, n'êtes pas dans cette obéissance du Fils de Dieu, dans cette action du Saint-Esprit, c'est que vous vous plaisez à voir des gens condamnés et à périr aller en enfer. Hier après-midi, il y avait un enterrement menés par les francs-maçons, ils se sont pas mis sur leur front. Ils étaient plusieurs dans le cimetière à faire des messages, mais je les connais bien dans le coin. Mais au matin, je suis allé, j'étais poussé à aller avec l'auto jusqu'à l'endroit où était le corps. Au matin, c'était fermé. Et y aller, malgré tout. Et j'arrive là, le frère que j'ai connu, bien, à l'âge de 14-15 ans, était là, il démarrait avec tout un convoi pour aller au crématorium Alexis ou autre part, réduire en poussière, en cendres, son frère, du même âge, un frère jumeau. Et quand j'ai vu, j'ai pensé à ces deux-là que j'ai eu dans mon moment de jeunesse, et je pleurais quand j'étais de lui dire, mais quand c'est l'enterrement, où c'est, etc. Il me l'a dit, et je dis, je vous aime toujours, je vous ai eu au mouvement de jeunesse, je vous aimais bien, c'était dans les pires chahuteurs qu'il puisse y avoir, mais moi je les aime bien. On fait du mouvement de jeunesse, c'est pas pour rien d'avoir que des Saint-Denis touche. Hein. Alors pratiquement, faut savoir aimer tout le monde et gérer ça. Hein. Et pratiquement, ce qui s'est passé, j'étais dans l'auto et j'ai pensé alors à tous les jeunes dans le mouvement de jeunesse, partout, des centaines, j'en ai connu des tas, parce que j'étais zélé, et je pleurais dans l'auto jusqu'à Virton, parce que j'en ai connu beaucoup, ils sont déjà morts. J'ai 71 ans, beaucoup sont morts. Entre 45 et 60 ans, beaucoup sont morts. Et pratiquement, j'étais désolé parce que je leur avais parlé d'une manière incomplète de Jésus-Christ. Je leur avais pas parlé du salut par la croix. J'étais séminariste, puis prêtre ouvrier, je leur parlais de Jésus, du bon Dieu, de la Bible, mais je ne donnais pas la clé du salut. Je ne donnais pas la justification par la croix. Le pardon que Jésus donne à la croix. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on croit en Jésus qu'on est sauvé. Ça ne suffit pas. C'est pas un salut sentimental. Et c'est pas un salut par des « je veux faire des bonnes actions parce que j'aime Jésus, je crois en lui ». Non, Jésus à la croix, je te présente mes offenses, mon péché, ma nature pécheresse. Est-ce que tu veux bien me pardonner à cause du sang que tu as offert pour moi à la croix? Quand la paix vient dans le cœur, à ce moment-là, on peut dire, le Christ, Jésus m'a justifié, m'a déclaré innocent, il a balayé tous les péchés de ma vie, je suis déclaré sauvé par lui. Mais il n'y a aucun mérite, c'est que je sois gentil ou pas. Et ce n'est pas le petit Jésus, le bon Jésus, etc. Ou mes bonnes actions. C'est rien que par son pardon que je suis sauvé, sa grâce. Et donc, je constate le néant, le gouffre dans lequel j'étais, alors que je faisais tout mon possible. Mais c'est un évangile sans puissance. Et je suis arrivé dans Virton, je m'arrête à la banque pour voir si j'avais des sous, et je vois un ami prêtre qui marche avec une canne dans... Il était très tôt, hein. Et il marchait. Et je sais qu'il n'a pas la foi, qu'il est malheureux. Et il est tout seul, il n'y a personne qui l'aide. Ça se voit, et puis en plus j'ai eu des conversations. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Il était prêtre toute sa vie. Il est malheureux. Malheureux et seul. J'ai eu le cas comme ça avec plusieurs amis prêtres. Nous ne pouvons pas nous retrancher derrière une étiquette pour être sauvés. C'est uniquement en se présentant à Christ ressuscité, en confessant ce que nous sommes et en demandant le pardon et en recevant sa grâce du pardon et son Saint-Esprit pour être changé, transformé et conduit par lui, conduit dans la parole, dans l'obéissance à la parole. On vérifie si quelqu'un a, est né de nouveau, a été pardonné à son amour de la parole, à son obéissance à la parole. On le vérifie, c'est à ça, et à son amour des âmes perdues, et l'amour de la croix de Jésus, pas aux bonnes œuvres, à la gentillesse, etc. Et pratiquement, je voyais cet homme, je le vois encore un peu plus loin, parce que je faisais une deuxième banque pour voir s'il y avait des sous, mais il y avait du négatif partout, potente, c'est comme ça, Je n'ai pas habitué, vous le savez, la plupart des gens, membres de notre église sont comme ça. Hein. Voilà, on attend. Et puis, on attend, ben on dépend d'eux, tout compte fait. Hein. On ne peut pas faire le malin. Hein. Alors, pratiquement, ce qui se passe, je vois encore quelqu'un qui avait été dans le mouvement de jeunesse, là. Puis j'ai dit, il est encore dans le même état. La façon dont il se traîne, il marche et tout. Mais quand on est en Christ, qu'on aime le Seigneur, qu'on a reçu le pardon, on ne se traîne pas. Même là, deux jours avant sa mort, on ne se traîne pas. Il y a une pêche en nous qui n'est pas normale, qui n'est pas humaine. Alors, il y en a combien de fois qui me disent au téléphone, non, mais t'es en forme, toi, t'es en forme, si tu savais, j'ai mal partout. Ah oui, je suis peut-être en forme, parce que en dehors de la forme, c'est Jésus qui est dans ma vie, dans mon cœur. Pratiquement ce qui se passe, nous sommes dans une région morte spirituellement, qui ne connaît pas le sang de la croix qui sauve. J'étais à l'enterrement l'après-midi, un troupeau d'aveugles. Alors, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes, vous comprenez bien que Jésus écrivait à terre, hein, Jérémie 17, verset 13, écrivait à terre le nom de ces hommes religieux qui se croient bien et qui croient que la femme, elle mérite d'être punie. Il faut donner un exemple. Hein, ils croient, ils ont raison, hein, pour eux. Il fallait que Jésus ne leur donne pas raison. Et qu'ils retournent. Ils retournent leur conscience en montrant leur péché. Qu'est-ce qu'il fait? Il inscrit leur nom sur la terre. Parce qu'ils ont abandonné la source d'eau vive. La source d'eau vive n'est pas dans la pratique religieuse. Et dans une confession d'une dénomination religieuse. La source d'eau vive est en Christ, à la croix. C'est son sang, notre source de vie. Voilà ce que j'avais à dire. Et, chose étrange, hein, c'est que juste au-dessus, vous avez un texte qu'on retrouve dans le psaume 1, et qui est dans Jérémie, hein, verset, Jérémie 17, puis j'en termine, verset 5. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Hein? Jérémie 17, verset 5. C'est tout à fait ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Maudit soit, c'est-à-dire l'homme qui se confie dans l'homme, dans ses œuvres, dans ses bons trucs, dans son bon mouvement de cœur, eh bien, qui n'est pas branché sur l'Éternel, qui ne reçoit pas la vie éternelle de Dieu même, eh bien, celui-là, il est maudit, c'est-à-dire, il est sous la malédiction, il est condamné, il reste dans le péché d'Adam et Ève. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17,5, qui prend la chair pour son appui. Ben dis donc, moi je me suis rendu compte, c'est ça que quand je vois mon ami là qui perd son frère jumeau, je vais le trouver, je n'arrivais pas à me retenir. Parce que je ne l'aurais pas vraiment prêché de salut convenablement. Pendant 26 ans, j'ai fait le con. Verset 6. Jérémie 17, 6. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Vous les voyez, les gens qui se traînent dans la rue, dans les magasins et tout. Allez, moi ça me frappe. Ils sont comme ce verset-là. Misérable dans un désert spirituel. Désert spirituel. Je sors du Lidl hier, après avoir été à cet enterrement, dirigé mais par des francs-maçons, mais les gens ne le connaissent pas, donc ils pensent que c'est bien. Ils se laissent mener comme si c'est un curé, c'est comme ça, ceux-là, c'est comme ça. Bah, c'est des caméléons. Alors, pratiquement, ils s'habituent à tout, dans le coin ici. Alors, mais ils ne s'habitueront pas à l'enfer, hein, je vous le dis. Alors, pratiquement, ce qui se passe, je vais après à la maison de retraite, voir une dame qui a perdu son mari, deux enterrements sur deux jours, hein, pas courant. Et puis, pratiquement, je sors du Lidl et je vois une petite dame avec une petite poussette, assez chétive, 30 ans, et puis un petit gamine, pas en très bonne santé, je vois ça. Et qu'est-ce que je fais? Je les charge dans l'auto et je les remène à la maison. Et je me rends compte que cette dame a 30 ans, ou 32 ans, elle était gamine dans nos camps. Elle était bien avec nous. Elle était belle, cette gamine-là. Et puis à un moment donné, les parents ont trouvé que ça dérangeait l'évangile. Ça allait déranger l'évangile. Elle n'a pas pu continuer à venir. C'est une loque à 30, 32 ans. Et sa petite aussi. Une loque. Et je retombe, je dis, mais comment tu t'appelles? Elle me dit son prénom. Ta mère s'appelle comment? Comme si, comme ça. Tu n'es pas venu à Icon, à Gambry? Est-ce que vous pensez bien? Encore et toujours, une âme perdue. Une âme que Dieu veut sauver, aimer, et qui a mal démarré sa vie. Parce que au moment où vous entendez ici l'évangile, au bout d'un camp ou deux, ben on ne les y met plus, hein. Mais on ne veut plus que nos gosses ils croient à tout ça, hein. Et le résultat, hein. Le résultat, c'est misérable dans le désert. Ils ne vont pas arriver le bonheur. Et ils y entraînent leurs enfants et petits-enfants. Verset 6. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Le désert spirituel, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, là c'est la bénédiction, hein, dont l'Éternel est espérance, la certitude. Il est comme un arbre planté près des eaux, donc les plats les eaux vives. Celui qui ne renonce pas aux eaux vives, il se plante et il met ses racines dans l'eau vive, en Dieu, toute sa vie. Il étend ses racines vers le courant. Ah oui, c'est pas une eau qui stagne, qui pue. C'est une eau vivante qui coule. De quelle source? Du trône de gloire de Dieu. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, donc les épreuves de la vie, et son feuillage reste vert. Il a une vie spirituelle, quoi qu'il arrive. Stable. Dans l'année de la sécheresse, donc les épreuves, etc., les tuiles, comme on dit, hein, parce qu'on en ramasse tous, hein, c'est sûr. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que c'est pas beau? Eh bien, c'est tout le contraire du verset 13, ils abandonnent la source d'eau vive. Vous savez, les contrastes. Les contrastes. Alors l'eau vive, Jean chapitre 8. Je vous dis que l'Ancien Testament prépare le Nouveau Testament. Et clairement, pour celui qui aime Dieu, il peut le trouver toujours. C'est préparé convenablement dans l'Ancien Testament. Jean chapitre 7. L'autre jour, j'avais rendez-vous dans la gare à Metz. J'attendais deux personnes. Deux personnes. Une n'est pas venue et l'autre est venue. Bon. Mais il y avait un monde fou. Ils partaient avec leurs bagages et tout. Leurs tablettes, leurs téléphones, tous excités. Un monde fou, fou. Et je les regardais et je dis, Seigneur, mon Dieu, si on pouvait être 10 000 fois plus nombreux pour te servir et leur présenter ton salut. Et puis il y a des travestis, il y a des drogués, il y a des transsexués, moi je les reconnais direct, à force d'avoir mis mon nez un peu dans tout, hein, eh bien je les reconnais. Rien qu'à leur voix, leur regard, et certains détails de l'habillement. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot pour qui? Pour la grâce de Dieu, pas pour moi. La grâce de Dieu peut changer ces gens-là, peut les sauver. Alors quand même, hein, vous savez, hein, en attendant, la dame n'était pas venue, une dame qui se prostitue n'était pas venue, l'autre monsieur, un musulman, est arrivé. Entre-temps, il y avait un homme et une femme de 30, 32 ans, 35 peut-être, tatoués, des chaînettes et tout ça, trois chiens, trois ou quatre chiens, sur les sacs, assis devant la gare. Bon, je vais prendre l'air. Je leur ai donné une Bible et causer avec eux. Ils vont peut-être arriver une fois à pied pour Marie-Hélène. Oh, 8 jours, 2 semaines dans la caravane, comme ça je pourrais les enseigner. J'en ai pris avec eux. Et pratiquement des braves. Des braves. Ils n'étaient pas pétés, ils ont drogué, non. Non. En fait, ils sont français, mais ils vivent à Bruxelles et ils ont été de temps en temps dans une église évangélique. Le gars me l'a dit. Et j'ai vu à ses yeux qu'ils ne jouaient pas la comédie. D'ailleurs, ils ne jouent pas la comédie, ces deux-là. Ils sont depuis 15 ans ensemble, ils circulent comme ça sous les ponts, ils vivent comme ça. En refus de la société, mais ils ne font pas de mal, hein. Vous verriez leurs chiens, c'est des vrais agneaux. Alors, Dieu soit loué. S'ils peuvent venir à Christ, c'est peut-être 2 ans plus tard de très bons serviteurs de Dieu, ces deux-là. Attention, ou 6 mois après. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Pâques, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront son sein, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, mes amis, mais c'est Jérémie 17. Et il y a d'autres textes aussi. C'est Jérémie 17. Hein? L'Écriture, c'est l'Ancien Testament. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, mort à la croix, ressuscité, glorifié. Ok ? Donc, l'eau vive, c'est l'Esprit Saint donné par Christ. Quand on s'est présenté à Christ, et vous comprenez bien que moi, jusqu'à 40, 42 ans, et puis voir que tous ces gens-là que j'ai fréquentés, je ne leur ai pas présenté clairement un son de la trompette qui sonne clair. Un son de la trompette clair pour qu'ils connaissent le salut. Vous ne pouvez pas m'empêcher de pleurer hier.